BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On file pour l'entamer sur les marchés, rejoindre Antoine Larrigaudré qui surveille les évolutions du marché qui, pour le moment, continue à respirer tranquillement, on a envie de dire, Antoine.
Oui, c'est relativement calme. Alors la correction a tendance à légèrement s'intensifier. On perd 0,8%, mais on reste toujours au-dessus des 7000 points. C'est largement 7026 points. C'est un petit peu plus tassé du côté de l'Eurostock 50 à moins 0,9% et moins 0,86% du côté du DAX à Francfort. La thématique du matin, elle est assez simple, c'est que les marchés redécouvrent l'univers de resserrement monétaire que nous imposent les grands banquiers centraux, que ce soit la Fed, que ce soit du côté de la BCE aussi. Les grands gouverneurs ont parlé beaucoup du côté des États-Unis hier après-midi et du côté de la BCE ce matin aussi. Et le ton est clair, il est question de continuer les remontées de taux pour maîtriser une inflation qui tarde à s'estomper. Les effets d'inflation sont toujours forts et il ne faut pas les sous-estimer. Et du coup, on a l'impression que les banquiers centraux sont en mission pour dire au marché, oui, vous ne prenez peut-être pas trop vos désirs pour des réalités. L'année 2023 s'annonce quand même serrée et un petit peu plus complexe que prévu. Donc du coup, les marchés en prennent acte. On a eu une forte baisse du côté de Wall Street hier soir. Baisse un petit peu plus modérée du côté des marchés européens qui bénéficient toujours d'un timing favorable parce que parallèlement, on a quand même ce discours très volontaire et on a une réaction totalement contre-intuitive sur le marché obligataire, c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur le climat de détente du moment. Avec 3,36 pour la dette américaine 10 ans, 2,03 pour la dette allemande et 2,45 pour la dette française. Donc peut-être l'impression qu'un combat vient de s'ouvrir là, entre les marchés et les banquiers centraux. Une forme d'opposition. Du côté des valeurs qui souffrent le plus, comme hier à Wall Street, ce sont les valeurs cycliques qui signent les plus forts replis. Moins 2,8% pour ArcelorMittal à 28,09. On a Renault aussi, moins 1,84 à 36,59. Mais à tout seigneur, tout honneur, c'est la meilleure performance de l'année pour le moment. On a LVMH aussi qui recule d'1,85% à 787,10€. On prend des bénéfices. Et puis Total recule d'1,9% à 58,46€ alors qu'on a eu une belle correction sur le baril de Brent de Mer du Nord qui était du côté des 88$ hier en journée et qui redescend maintenant du côté des 84. Les titres à la hausse, que des valeurs défensives, vraiment. Pernod Ricard plus 1,18 à 193,30. On a Danone aussi plus 0,82 à 50,39. Thales plus 1 à 117,30. Air Liquide plus 0,55 à 145,12€. Sanofi plus 0,43%, 91,72€. C'est du solide, c'est du défensif. L'Oréal aussi qui gagne 0,1% à 384€. La plus forte hausse du SBF 120, c'est Virbac qui s'envole de 4,16% à 263€. La plus forte baisse, elle est pour Eramet qui recule de 3,5% à 89€. Mais comme ArcelorMittal, on a l'impression d'une thématique de dégagement autour des valeurs liées aux matières premières et notamment minières. Le CAC 40, moins 0,8%, 7025 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on reste tranquillement au-delà d'un 0,8 à un 0,823, Cédric.
Antoine Larrigaudré depuis le siège d'Euronext à La Défense. Tout de suite, toute l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée noire dans les transports, les écoles, mais aussi l'énergie. Chez EDF ce matin, la CGT annonce que les baisses de production d'électricité s'intensifient, l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. Et puis chez Total Energy, il y a entre 70 et 100% de grévistes dans les raffineries. Les livraisons de pétrole sont bloquées, les expéditions sont interrompues sur l'ensemble des sites. Et ce n'est que le début, selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était l'invité de BFM TV et RMC ce matin.
Mais je vois mal le gouvernement dire, écoutez, effectivement, le critère de l'âge est vraiment pas le critère le plus juste. Il touche davantage certaines catégories de salariés. Il faut revoir ça et revenez discuter. Si c'est le cas, on ira discuter. Mais si c'est pas le cas, on continuera de peser par en appelant à des journées de mobilisation. Donc ça, on verra ça. On décide de ça ce soir à 18h entre organisations syndicales.
Et on suivra évidemment l'évolution de ce mouvement et de cette mobilisation tout au long de la journée sur BFM Business. Noté émission spéciale à partir de 18h autour de Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Le projet de loi d'Escrozaille sur les négociations commerciales entre distributeurs et industriels, il prévoit une expérimentation de 2 ans en cas de désaccord sur les tarifs. C'est l'industriel qui aura le dernier mot. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il doit maintenant être examiné au Sénat. Ça sera à partir du 15 février. Gosport placé en redressement judiciaire, décision du tribunal de commerce de Grenoble ce matin après avoir constaté la cessation de paiement de l'enseigne. Par ailleurs, la maison mère est visée par une enquête pour abus de biens sociaux. Arkema signe avec Engie un gros contrat d'achat de biométhane, ce gaz issu de la fermentation de déchets agricoles et agroalimentaires. On ne connaît pas le montant du contrat, mais il est présenté comme l'un des plus importants en Europe à ce jour. L'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est cette passe d'armes entre Antonio Guterres et Patrick Pouyanné à Davos. Le secrétaire général de l'ONU accuse les pétroliers d'avoir caché ce que leur industrie allait favoriser le réchauffement climatique. Un grand mensonge, selon Antonio Guterres, qui appelle à poursuivre les responsables en justice. Des accusations formellement démenties par Patrick Pouyanné. C'est un faux débat, a dit le patron de Total Energy au micro de BFM Business depuis Davos. Notez, ce soir, Edwige Chevrillon reçoit Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie depuis Davos. Ce sera à 19h30. Et puis toujours à Davos, Christine Lagarde est attendue aujourd'hui. La présidente de la BCE doit faire un discours sur la croissance en Europe. Ce sera en fin de matinée et juste après, ce sera Bruno Le Maire qui s'exprimera, le ministre de l'économie qui sera l'invité de Good Morning Business. Ce sera demain matin à partir de 8h15 sur l'antenne de BFM Business. Cédric.
Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque matin pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on retrouve l'œil du stratège.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil de Frédéric Rosier, que l'on rejoint en duplex depuis Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Merci de vous être rendu disponible en visio pour ne pas subir les affres de la difficulté de se déplacer ce matin à Paris. D'abord, peut-être votre éclairage, parce que quand on parcourt un petit peu les publications depuis une vingtaine de jours, là, fin d'année et début d'année, bah, on a des perspectives qui partent un petit peu dans tous les sens. Les uns qui nous disent que ça va être très difficile pour une grande partie de l'économie mondiale, d'autres nous disent non, a priori pas de récession, d'autres qui rabotent un petit peu leurs estimations. Enfin, est-ce qu'on arrive à se faire une idée? Est-ce qu'il faut croire plus les uns que les autres? Enfin voilà, comment est-ce que vous percevez un petit peu ce flou?
Oui, je vais mettre le drapeau suisse, je vais demander la neutralité. Je vais demander la neutralité. C'est vrai qu'entre le hard landing, le soft landing, le no landing, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai qu'il y a des statistiques, des discours qui peuvent être extrêmement divergents. On l'a vu hier avec des chiffres, notamment sur les prix à la production qui étaient largement en dessous, même l'activité manufacturière. Donc on voit qu'il commence à avoir un vrai ralentissement aux États-Unis. Mais dans le même temps, vous aviez l'association des constructeurs aux États-Unis qui ont un discours plutôt encourageant, disant qu'ils avaient des signes, notamment avec une vraie détente des taux hypothécaires aux États-Unis, hein, puisque les taux hypothécaires sont passés en quelques temps de 7,5 à 6,5, et voyez finalement une forme de rebond de l'activité de construction. Donc oui, c'est beaucoup de discours divergents sur les banques, par exemple, puisque ce sont les banques qui ont lancé la période des résultats. On l'a vu, il y a eu des divergences incroyables suite à ces publications, un gros décrochage de Goldman Sachs, une progression assez forte de Morgan Stanley, JP Morgan aussi, mais qui font aussi état de provisions pour un risque de récession. Vous avez également le chancelier allemand qui donne un discours assez optimiste, honnêtement, puisque lui ne voit pas de risque de récession en Allemagne. Donc ça fait énormément de discours assez divergents qui finalement laisse supposer qu'on aura, je répète, ce côté suisse, peut-être un entre-deux et peut-être effectivement une forme de soft landing de l'économie. Mais c'est vrai que les derniers chiffres américains laissent supposer quand même que et aussi des indications sur l'emploi, hein, puisqu'on a eu notamment encore Microsoft qui nous a annoncé des licenciements et on sait que la construction ça devrait se dégrader courant été. Voilà, il y a un risque quand même aux États-Unis sur la deuxième partie de l'année sur l'activité économique.
Dans l'actualité, on va pas faire zone par zone parce que on aurait probablement pas assez de temps, mais il y en a quelques-unes qui ont fait l'actualité ces dernières heures, et notamment le Japon qui, dans un contexte où toutes les banques centrales resserrent, on voit la Fed qui nous dit que l'activité reste relativement inchangée, on a la BCE qui pour le moment discute mais reste dans un mode plutôt agressif. Et puis la Banque du Japon qui choisit de ne toucher à rien, alors que tout le monde critiquait un peu. Comment est-ce que vous prenez ça ?
Alors là aussi c'est extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça devait être il y a un mois maintenant, Kuroda qui est le gouverneur de la banque centrale japonaise depuis une dizaine d'années et d'ailleurs qui devrait passer la main en avril, avait laissé supposer quelque part un abandon de la politique taux zéro japonaise, et pour la première fois en 10 ans effectivement on sentait qu'il y avait un risque de resserrement monétaire au Japon, et on l'a vu d'ailleurs sur la parité notamment dollarienne, on est passé de 150 à 120, 125. Donc il y a eu un raffermissement du yen relativement fort suite à cette décision. Et là, il nous prend un petit peu à revers en disant finalement cette politique du taux zéro, elle nous convient assez, notamment pour soutenir l'économie japonaise dans un cadre de ralentissement global des économies. Donc c'est vrai qu'en un mois, on a le sentiment qu'il y a eu un petit peu un reverse, un changement un petit peu de temps qui a surpris. D'ailleurs, on a vu le yen très fortement baisser d'ailleurs suite à cette annonce de la BOJ. En train de se reprendre. Donc, vrai, je vous dis, des discours assez perturbants, des signaux économiques assez divergents, ce qui crée effectivement une incertitude sur la trajectoire même des marchés à moyen terme.
Est-ce que dans ce monde-là, vous prêtez une attention particulière ? Attention, vous êtes sous drapeau suisse, à Davos. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez ?
Écoutez, je sais pas. C'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression qu'on, alors que les enjeux n'ont jamais été aussi importants, je trouve qu'on en parle un petit peu moins que les années précédentes. Il faut faire attention, lorsqu'on attend beaucoup de choses de Davos, il se passe rien, et quand on attend pas grand-chose, il se passe quelque chose. Donc on sait que c'est une réunion importante, les grands argentiers se réunissent. Je pense qu'il va y avoir des discours qui vont être donnés sur notamment l'inflation. C'est là où on attend un petit peu plus effectivement d'informations. Peut-être un discours qui va donner des motifs d'espoir. Et on l'a vu, il y a quand même des formes de ralentissement quand même des tensions inflationnistes qui apparaissent aux États-Unis, mais pas seulement. Donc je pense que ça va être plutôt dans ces discours-là qu'on va attendre des nouvelles.
Bon, passons maintenant au marché actions. D'abord, est-ce que, ne le prenez pas mal, est-ce que le grognard que vous êtes prête encore attention aux histoires pour enfants, à la couleur du premier jour, de la première semaine, du premier mois, ou bien non?
Alors, vous savez qu'on vit de dicton en bourse. Et finalement, les exceptions, c'est celles qui confirment la règle. Donc on est parti effectivement tambour battant depuis le début de l'année, mais pour des raisons à la fois fondamentales, de problématiques de valorisation, notamment en Europe, sous-valorisation, le marché européen décote encore. La décote était quasiment historique sur le marché européen. On a comblé une partie de cette décote, mais le fait est qu'il reste encore un petit peu décoté par rapport au marché américain notamment. On a un positionnement finalement aussi des hedge funds qui étaient très vendeurs de ce marché-là et qui en profitent pour se repositionner. Donc il y avait un aspect technique qui explique la nature de ce rebond. C'est vrai qu'historiquement, la première semaine est un bon indicateur quand même de tendance. Je répète, il y a eu des cas où ça n'est pas arrivé. C'était il y a maintenant 12 ans, c'était en 2009, où on était parti également en tambour battant et on avait connu un trou d'air de quasiment 30% entre le point haut et le point bas au mois de mars. La situation est différente, les sociétés sont saines, on est dans une politique de resserrement monétaire, donc ça tout le monde a compris, tout le monde a intégré, et comme on dit souvent, c'est peut-être la récession qui est quelque part la plus attendue, la plus annoncée quelque part, et donc même si effectivement les économies tombaient en récession, quelque part c'est largement anticipé d'un point de vue global. Après, sur les valorisations et la croissance des bénéfices, pas tout à fait, secteur par secteur, on peut en reparler. Mais clairement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Même s'il y avait un ralentissement économique, on a l'impression qu'on l'a vendu l'histoire depuis déjà pas mal de temps.
Du coup, Frédéric Rosier, qu'est-ce que vous espérez pour nos marchés ?
Faut être aussi honnête, on s'attendait à un très bon début d'année, mais pas de cette nature et de cette puissance. Mmh. Donc là, on a à peu près 2-3% aujourd'hui sur le CAC qui nous surprennent. Voilà. Donc on est dans une phase.
C'est une question qui revient presque entre les lignes. Que les marchés font-ils si haut ?
Alors, ils sont pas si hauts dans l'absolu. Hein. Quand on se paye 12 fois et demi, entre 12 fois et demi et 13 fois, on n'est pas si cher. Et après, il faut regarder de manière intrinsectorielle, voir ce qui est cher et ce qui est pas cher. Donc, il est possible effectivement qu'on va rentrer donc dans cette période de résultats avec des choses qui vont passer, d'autres qui passeront pas. On l'a vu avec le secteur bancaire aux États-Unis, quand ça passe pas, c'est moins 6, moins 7 sur Goldman Sachs. Quand ça passe, c'est Morgan Stanley à plus 6 ou plus 7. Donc on va avoir valeur par valeur, secteur par secteur, énormément de volatilité après une hausse qui, à mon avis, d'un point de vue même technique, est insoutenable sur du court terme. Il faut une respiration. Mmh. Peut-être une respiration qui nous emmènera peut-être fin janvier, mais il faut cette respiration. Après, il y a des raisons d'être positif. L'hiver assez... Qui n'en est pas un, d'ailleurs, au moment où on se parle, a fait que les réserves de gaz, par exemple, en Europe, n'ont jamais été aussi élevées depuis 12 ans. Donc, on n'a pas de problématique de blackout aujourd'hui, il n'y a pas de problématique d'énergie. Donc, ça, c'est des motifs de assez rassurants. Donc, on va être prudent quand même sur la période de publication. En tant que gérant, je regarde les bons dossiers, les défensifs, et je mets des pièges pour des publications qui seraient peut-être mal perçues. Je pense que c'est la meilleure attitude à avoir aujourd'hui dans ce marché qui est un petit peu élevé à court terme.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier donc et Mirabeau qui nous accompagnaient ce matin sur l'œil du stratège. Très bonne séance sur les marchés Frédéric. Le CAC 40 qui pour le moment accélère un petit peu son repli, moins 0,9, 7017 points.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, tout de suite, on se connecte au marché. C'est le cas à l'entame de chaque demi-heure, vous le savez, pour prendre le pouls de la séance. Bon, on imaginait depuis l'ouverture que c'était une petite phase de consolidation. Et puis depuis quelques minutes, on a enfoncé le 0,8, le 0,9, le pourcent. Et puis maintenant, c'est 1,2% de moins pour l'indice qui passe du même coup sous les 7000 points. Jean-Louis Cussac, d'abord, comment s'explique cette accélération? Et puis, à votre avis, jusqu'où peut-on glisser?
Glisser, moi ce que j'espère c'est jusqu'à 6650, mais évidemment pas pour cet après-midi. Hein. Donc c'était vraiment la perspective long terme que j'évoquais depuis plusieurs jours. Maintenant, qu'est-ce qui explique au départ, si vous voulez, on a bien tenu la baisse de New York, notamment hier. Les craintes de récession reviennent sur le devant de la scène d'une manière un peu plus marquée. Je vous disais, entre la crainte de la récession, l'espoir des baisses des taux pour 2023, il y a une étroite limite et on va vite d'un côté ou de l'autre. Et là, voilà, c'est la crainte d'une récession un peu plus peut-être forte que prévu, que prévu. On a tout prévu de toute façon, mais en tout cas que les optimistes anticipaient, qui fait que il y a eu quelques ventes, en tout cas moins d'achats. Et derrière, des seuils techniques un peu enfoncés, comme 7050 pour un premier petit warning, et puis ensuite 7020, etc. Ce qui fait que ce qu'on a parfois observé aussi dans la hausse, c'est-à-dire pas de résistance en face, pas de vraie contrepartie. Là, si vous voulez, les acheteurs potentiels, ils se disent, j'ai le temps, je vais attendre un mouvement de repli plus important. Si vous voulez, ils vont pas se précipiter à acheter dans ces conditions. En plus, techniquement, on est à la veille de l'échéance des contrats janvier, donc c'est pas non plus une période où on va forcément prendre des initiatives. Les gens se disent, on verra lundi, j'ai le temps, et de toute façon, le marché baisse, donc je préfère m'abstenir de quoi que ce soit. Vous voyez, on est plutôt dans cet esprit-là. Il n'y a pas une vraie, pour l'instant, volonté à vendre, il n'y a pas de forte pression. D'ailleurs, les volumes sont assez raisonnables, on est en dessous de 700 millions. Tout à l'heure, et on était à 490-500 millions. Enfin, voilà, c'est pas non plus très important. Et on est au même niveau que vendredi dernier, à peu près. Donc, c'est pas non plus sur 5 jours une très forte baisse. LVMH, évidemment, pèse lourd dans le repli, hein, puisqu'elle perd 2,3% maintenant. Donc, ça fait à peu près du 0,38%, rien que sur l'indice CAC 40 comme impact. Total, pareil, total recul de 2,3%. Elle pèse 9%. Donc, vous voyez, ça fait presque 0,2. Donc, tout ça, si vous voulez, accumulé, les grosses pondérations en repli font que on baisse, mais sans gravité, on va dire. Mais on avait la même chose à la hausse. C'était aussi cela. Hein. Vous savez, à partir de 6850 jusqu'à 7100, on peut pas dire que on voyait des vraies convictions acheteuses. Donc les opportunistes, bah, ils sont pas là. Moi-même, si vous voulez, j'avais considéré qu'il fallait tirer un peu la trappe et jouer, jouer un repli potentiellement jusqu'à 6650. On en est loin. Mais en tout cas, pour y aller, il faut bien passer par 6990 et etc. Donc, pour l'instant, on tient le bon bout et il ne faut pas se précipiter dans cette phase de marché. Voilà.
Merci beaucoup pour ces quelques mots sur cette tendance du jour. Le marché parisien, donc, qui pour le moment perd un petit peu plus de terrain que ça n'était le cas en début de séance. Le CAC qui abandonne en ce moment 1,35% à 6987 points. Du côté des places européennes, on est en repli également, moins 1,07%. Du côté de l'eurodoll, 1,0825.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Sur le green qui nous accompagne régulièrement pour évoquer ces questions avec Pascal Bossan depuis Bossan Conseil. Vous nous entendez, Pascal ?
Bonjour, absolument. Bonjour, Cédric.
Merci d'être au rendez-vous malgré ces questions de circulation un peu délicates dans Paris. On vous retrouve en visio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie l'engagement actionnarial ? C'est un terme qu'on entend lorsqu'on s'intéresse à ces questions ESG, dirons-nous.
C'est ça, c'est question d'engagement. Absolument. Donc, si on reprend la définition que nous donne Novetic, l'engagement actionnarial, ça désigne le fait pour un investisseur de prendre position justement sur des enjeux ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance, et d'exiger en fait des entreprises eh bien, qu'elles améliorent leurs pratiques dans la durée. Ces exigences sont formulées par l'intermédiaire d'une démarche structurée qui comprend un dialogue direct avec l'entreprise et un suivi sur le long terme. Et certains acteurs, en fait, utilisent aussi les termes d'actionnariat actif, voire d'activisme actionnarial.
Alors, le réseau shareholder, on va en parler, for change, mais d'abord, concrètement, quels sont les leviers disponibles pour cette pratique de l'engagement actionnarial par un investisseur ?
En fait, il y a plusieurs leviers qui sont disponibles. D'abord, des communications publiques hein, sur les insuffisances éventuelles des entreprises. On a bien sûr des décisions de gestion qui peuvent aller jusqu'au désinvestissement, c'est-à-dire si les entreprises ne vont pas assez loin, justement, dans leur bonne pratique. Et puis, en assemblée générale, on peut avoir des questions posées au moment des assemblées, des votes contre certaines résolutions ou bien même le dépôt de résolutions externes. Et alors, c'est vrai qu'un petit mot, en fait, sur ce sujet-là, un particulier seul peut évidemment difficilement peser hein, sur ses décisions, sur les assemblées générales. Ceci dit, l'engagement actionnarial peut se faire de manière indirecte par l'intermédiaire des sociétés de gestion, en fait, qui vont mutualiser et rassembler les votes de manière beaucoup plus importante.
Et c'est là qu'intervient donc ce réseau Shareholder for Change, qui est justement positionné sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un réseau qui est peu connu. En fait, c'est un réseau européen d'engagement actionnarial qui a été créé en 2017 avec 7 sociétés de gestion membres fondateurs. Et parmi eux, 2 sociétés de gestion françaises. C'est toujours bien de faire un petit cocorico avec Ecofi Investissement et Mescart Asset Management dans les fondateurs. Et l'objectif, en fait, c'est de se rassembler, de partager des bonnes pratiques, de mettre en œuvre des actions communes donc d'engagement actionnarial. Donc ça peut être par exemple de co-signer ensemble des lettres qui vont être adressées à des entreprises, de participer ensemble aux assemblées générales et pourquoi pas même de rencontrer ensemble des entreprises pour échanger sur leurs engagements par exemple.
Alors il se concentre notamment sur 5 thématiques, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Les droits de l'homme et du travail, la santé mondiale et la nutrition, la production et la commercialisation d'armement, qui est bien sûr un sujet extrêmement sensible, la fiscalité et la corruption internationale, également un sujet particulièrement important, et le changement climatique.
Alors, Shareholders for Change a réussi à déposer une résolution estampillée climat à l'Assemblée générale 2020 de Total. Racontez-nous.
Oui, ça a été en fait un vrai tour de force. Cette résolution a nécessité des mois et des mois de travail et d'engagement. Il faut savoir qu'en France, en fait, le sujet de la stratégie climatique fait partie des sujets habituellement débattus plutôt en conseil d'administration. Donc, faire basculer ce sujet en assemblée générale avec le vote des actionnaires, eh bien, ça constitue un changement de paradigme complet. Donc, c'est tout à fait intéressant.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler d'une régulation baptisée Say on Climate ?
Oui, en fait, au début des années 2000, on a eu ce principe Say on Pay qui est apparu. Donc chaque année, en fait, une résolution qui concerne la rémunération des dirigeants, le contrôle en fait, et l'encadrement de la rémunération des dirigeants doit maintenant être soumise au vote lors des assemblées générales. Et cette régulation, a eu des effets positif sur les pratiques de rémunération, même si bien sûr on a pu identifier des faiblesses également. Et donc en parallèle, aujourd'hui, une question finalement d'une régulation similaire pour le climat, donc Say on Climate, se pose aujourd'hui. L'objectif en fait, c'est de faire voter les actionnaires sur la politique climat des entreprises cotées. Tant pour la trajectoire réalisée que pour la prospective. Donc, ce sera tout à fait intéressant de suivre l'évolution de cette pratique. Et ce qu'on peut dire, Cédric, en conclusion, c'est que pour un épargnant individuel, c'est intéressant de savoir que son droit de vote, notre droit de vote, est utile et qu'il permet de peser de façon individuelle, bien sûr, mais aussi de façon collective, au moment des assemblées générales et de mettre une certaine pression aux entreprises dont on est actionnaire pour qu'elles améliorent leurs pratiques dans la durée.
Voilà quelques idées sur toutes ces thématiques signées Pascal Bossan, Bossan Conseil, qui nous accompagne très régulièrement. Bonne fin de journée, Pascal, et à très vite sur le plateau de BFM Patrimoine. Le CAC 40, lui, donc, a accru son recul pour le moment. Il perd 1,44% maintenant et s'éloigne des 7000 points, 6981 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et on a retrouvé Jean-François Filiatre. Adieu les petits soucis de connexion de tout à l'heure. Vous nous entendez, Jean-François ?
Ouais, juste, je voudrais que vous confirmiez parce que j'ai reçu pas mal de messages, comme on m'a dit, on t'a coupé la chic, etc. C'était pas de la censure ?
Non, c'était pas de la censure, c'était un problème technique. Voilà, donc on a réussi à rétablir la communication, comme quoi il n'y a pas de censure, sinon on lui aurait définitivement coupé la chic. Bon, Marché Gagnant nous accompagne régulièrement pour ce panorama de début d'année du fonds euro. C'est effectivement quelque chose qui intéresse la majeure partie des épargnants. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace cette semaine, Jean-François ?
Eh bien, écoutez, on risque d'y passer un peu de temps, malheureusement, pour les autres questions, parce qu'on a beaucoup de choses. Premier point de départ, la dernière fois qu'on a fait ce petit journal du fonds euro, c'était jeudi dernier. On était donc le 12, et juste après ma chronique, il y avait un événement qu'on présente structurellement, que certains en tout cas présentent structurellement comme l'événement majeur, etc., parce que c'est celui qui donne le là, c'est la conférence de presse de l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme élément avant cette conférence de presse ? On avait Gérard Beckerman qui était venu en plateau quand on avait fait un débat d'assurance vie au mois de décembre, qui nous avait dit, notamment la phrase suivante, est-ce que l'affaire a historiquement a déçu et pourquoi voulez-vous que l'affaire déçoive aujourd'hui ? Le taux tombé à l'affaire est un taux de 2,1% pour l'exercice 2022. Et disons-le franchement, je pense qu'il va falloir qu'on arrête de dire sur la place qu'on attend la référence de l'affaire pour considérer que c'est le taux de référence de la place. Pourquoi ? Parce que ce taux, il va peut-être, je dis bien peut-être, être au-dessus de la moyenne du marché, j'en suis pas encore sûr, mais il est effectivement très décevant. Alors, il y a aujourd'hui, mais ça, moi, ça fait déjà un certain temps que je dis, il y a un problème de gestion financière sur le fonds affaires. Alors, je m'explique en deux mots. Quand on compare le taux de l'affaire avec le taux de ses concurrents, en fait, on compare des choses qui sont un peu des choux et des carottes. Pourquoi ? Parce que l'affaire a, dans son contrat, l'obligation de distribuer 100% de ses profits, ses produits financiers, là où la majorité des autres acteurs de la place ne distribuent que 85%. Donc, quand vous avez des taux qui sont à 2, ben, l'écart entre 85 et 100%, ça fait 30 centimes. Donc, si l'affaire n'est pas au-delà de 30 centimes au-dessus du marché, ben, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième sujet que l'on a, Gérard Beckerman nous avait dit, nous, on redistribue des réserves et dans les 6 ans, la différence de ce que font les assureurs. Donc, en pratique, pour arriver à 2,01%, l'affaire a pioché dans ses réserves à hauteur de 94 millions d'euros. Il s'avère que comme je m'amuse avec ces histoires de communiqués de presse et tout ça, à faire pas mal de fact-checking, je suis allé regarder la dotation aux réserves qui avait été faite par l'affaire en 2016 et je regarde sur mon papier, c'est donc dans la lettre de l'affaire que j'ai trouvé ça, c'était 106 millions d'euros. Donc pour moi, il manque 12 millions d'euros. Donc voilà, premier élément, on a l'affaire qui sort. Deux, on est content parce que ça passe au-dessus de 2 et que c'est un seuil psychologique. On voit bien que 2,01%, ça sent bon, le fameux concept d'un taux d'un contrat d'assurance vie ne se constate pas, il se décrète. Mais malgré tout, je trouve les chiffres décevants. Pourquoi décevants ? Parce que, et d'ailleurs, j'ai pas été le seul à le dire, parce que Cyril Chartier-Kessler, qui avait prévu un taux bien supérieur, a lui aussi fait un tweet pour dire que ce résultat lui paraissait très décevant. En fait, là où moi je vais bouffer mon chapeau pour cette année, c'est que depuis le début, je vous dis, il va falloir, pour savoir où va la moyenne, regarder la position des banques assureurs. Et à partir de la position des banques assureurs, moi, je me suis dit, ils vont être relativement frileux parce qu'ils vont pas avoir envie que l'argent sorte. Or, cette semaine, la semaine dernière, on avait parlé de la Société Générale. On avait dit que les taux étaient en forte hausse. Je m'étais interrogé pour savoir si c'était lié à la situation spécifique de la Société Générale, liée au fait qu'il y ait le rapprochement avec le Crédit du Nord. En fait, maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder les banques assureurs parce que depuis la semaine dernière sont sorties la CNP qui va couvrir la Banque Postale et un bout de la Caisse d'Épargne. Mmh. On a eu également BNP Paribas avec Cardiff et on a eu également le Crédit Mutuel et on a eu également le Crédit Agricole. Et donc, là, on a quand même un certain nombre de surprises. Vous voulez que je... Allez, tiens, on va commencer par CNP, parce qu'ils sont tombés le même jour. Ils sont tombés le même jour que l'affaire, c'était le 12. CNP annonce une nette augmentation des taux de revalorisation de ses supports en euros, tel est le titre du communiqué de presse. Et en pratique, quand vous faites un titre comme ça, autrement dit, quand vous ne mettez que des mots et que vous ne mettez pas de chiffres, c'est vraisemblablement que ce n'est pas tout à fait encore définitivement tip-top. Donc, en pratique, la CNP nous annonce une augmentation moyenne des taux servis de 0,66 points avec un taux moyen servi de 1,57%. Donc, quand on regarde CNP, le même jour, on se dit l'affaire, ils sont super bons à 2,01, c'est génial. Petite remarque par rapport à ça, on constate quand même que les évolutions des grilles, la CNP a recouru au principe des bonus, sont quand même assez importantes. Notamment, moi, il y a quand même un sujet qui me surprend. Si je prends dans l'ancienne gamme, parce que maintenant c'est assuré par BPC Assurance, mais si je prends les vieux contrats de la Caisse d'Épargne, on a par exemple Nuance 3D qui, en 2021, avait un taux, selon les bonus, qui était compris entre 0,75 et 1,50, donc on passait du simple double. Et là, si je regarde la grille pour la caisse d'épargne sur Nuance 3D, je vais de 1,35 à 3,04. Donc là, on sent bien qu'on a, changé la grille pour favoriser les gens qui prenaient beaucoup d'unités de compte. Le mouvement est quand même moins important au niveau de la banque postale, puisque si je prends Cachemire 2, série 2, eh bien, je navigue avec le taux le plus bas, c'est 1,40. Le taux le plus élevé, c'est 2,80. Et si je prends le contrat haut de gamme, qui est Cachemire Patrimoine, série 2, je vais de 1,50 à 3. C'est-à-dire que sur celui qui n'a pas d'unité de compte, il a 10 centimes en plus. Et sur celui qui a plein d'unités de compte, il a 20 centimes en plus. Donc là, CNP, c'était jeudi dernier, on se dit que bif-bois. Et puis derrière, alors vous avez les autres qui tirent. Et alors là, ça devient un peu la fête au village. Allez, j'attaque BNP Paribas avec Cartif. Et je prends, pardon, les lunettes qui ne sont pas les miennes, mais comme vous savez que les miennes, je les ai perdues dans un taxi et que je les ai toujours pas changées. Donc, BNP Paribas, 2,04 en moyenne.
On saura tout de la vie de Jean-François.
Donc, BNP Paribas, 2,04 en moyenne. Le taux de base, c'est 2 pour tout le monde. Ensuite, on peut monter jusqu'à 2,95 en fonction des parts des unités de compte. Alors, vous savez que historiquement, j'aime bien le communiqué de BNP Paribas parce que je les trouve relativement transparents. Donc, je vais faire deux remarques sur le communiqué pour un peu éduquer tout le monde. Première remarque, BNP Paribas, Cardiff, nous donne tous les ans dans son communiqué de presse le taux de rendement des actifs. C'est une donnée que je réclame systématiquement. La nouvelle que l'on peut donner sur BNP Paribas...
On rappelle, c'est-à-dire combien ils ont gagné avec leur gestion, quoi.
Avec notre pépette. Ils ont placé notre pépette. Combien ça a donné comme résultat? Eh bien, BNP Paribas nous dit que cette année, le portefeuille a rapporté 2,75%. Et je suis allé comme je le fais toutes les semaines, regarder le communiqué de l'année précédente. Le communiqué de l'année précédente, on avait annoncé que la performance était de 2,36%. Autrement dit, en 2022, l'argent a plus fructifié que l'année précédente, ce qui justifie partiellement, effectivement, l'augmentation de la distribution aux clients. Deuxième petite remarque que je voudrais faire sur le communiqué de BNP Paribas, et ça, je fais référence à un petit post de maths que je me suis amusé à faire l'autre jour sur LinkedIn, sur les déclarations des assureurs sur les réserves. Alors, c'est de la thématique toute bête. Je vous donne l'exemple que j'avais mis sur LinkedIn. Si vous dites que vous avez 10 de réserve et que vous avez 100 d'encours, vous pouvez dire j'ai 10% de réserve. Mm-hmm. Si l'année suivante, vous n'avez plus que 90% d'encours et que vous dites j'ai toujours 10% de réserve, ça veut donc dire en pratique qu'il vous en reste que 9. Et en pratique, ça veut dire que vous avez quand même mangé 1 de réserve pour payer les taux. Et alors là, c'est assez rigolo. Parce que j'avais pris cet exemple en début de semaine, puis j'ai regardé le communiqué de presse de BNP Paribas, qui nous dit fièrement que ses réserves restent quasi stables à 6,78%. L'an dernier, c'était 6,86%, donc c'est effectivement un pourcentage quasi stable. Sauf que, comme on est dans des environnements de décollecte sur le fonds en euros, le montant des réserves de BNP Paribas Cardiff l'an dernier, c'était 6,2 milliards et cette année, c'est 5,7 milliards. Ça veut donc dire qu'on a quasiment passé 1,5 milliard de réserves que l'on a utilisées pour payer les rendements tout en disant que les réserves restaient quasiment stables. Allez, ça c'est fait pour BNP Paribas.
Bon.
Deux mots de crédit autres. Mutuel. Ouais. Crédit mutuel, donc, alors là encore, on a des bonus. Donc, ce qui fait d'ailleurs au final, on n'y comprend un peu plus rien dans les taux, dans tout ce qu'on annonce. Donc là, les rendements hors bonus sont compris entre 2 et 2,75. Ça nous sort donc un taux de rendement de 2 moyens de 2,30. On passe maintenant au Crédit Agricole, où là, on nous annonce un taux moyen de 2,32. Là encore, on a des grilles de bonus. On a quand même des mouvements qui sont très forts. On va prendre un contrat qui était un contrat phare, qui était prédissime, série 2. Il faisait 0,65 si on n'avait pas d'unité de compte l'année précédente. Il fait 1,90 cette année. Et il peut monter jusqu'à 2,70. Qu'est-ce qu'on est en train de constater lorsque je vous annonce tous ces chiffres-là? Vous constatez qu'en moyenne, alors le Crédit Agricole va être au-dessus de l'affaire. que le Crédit Mutuel est au-dessus de l'affaire, que BNP Paribas est au-dessus de l'affaire. Et en fait, on est en train d'assister à un mouvement qui est absolument phénoménal sur le marché, que les banques assureurs, qui étaient traditionnellement mauvais,
ouais, en bas,
sont en train de reprendre la main. Et je vais vous faire une confidence, ça nous ouvre peut-être une opportunité absolument formidable, parce que vous le savez peut-être, mais il y a un texte de loi qui a été proposé par des sénateurs sur la protection de l'épargne et revient sur la table le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance vie. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Et le sujet, quand les banques assureurs, qui sont les plus gros acteurs de la place, étaient au fond de la cave, il est clair qu'ils n'avaient pas spécialement
envie qu'on change.
Et même maintenant, s'ils commencent à passer dans la première partie du peloton, peut-être que finalement, ils vont trouver que c'est une bonne idée. Hein, ces idées-là. Bon. Allez, je vous donne deux, trois infos supplémentaires après avoir fait des banques assureurs. Je vais rester du côté des assos. Donc, du côté des assos, je disais que c'était pas tip-top du côté de l'affaire. L'ASAC a sorti son taux sur ses contrats faits avec Allianz. On sort 2%. Là encore, on a pris dans les réserves. Et j'aurais tendance à dire que on va être un peu dans la problématique de l'affaire. Et en revanche, une plutôt bonne surprise, c'est le Guépard, qui annonce 2,2%. Alors, c'est assez rigolo, c'est qu'ils ont un peu dit qu'ils avaient sorti un bon taux aussi parce que c'était un anniversaire et qu'ils avaient des choses à montrer. Ils ont pris un peu de réserve, mais ils n'ont pris finalement qu'un tiers de ce qu'ils avaient doté l'an dernier. Deux taux pour conclure. Ouais. SMA qui progresse, on est à 2%. Et puis, il y a le conservateur qui est tombé ce matin. Alors, petite remarque sur le conservateur, petit changement par rapport à l'an dernier, c'est que le taux moyen servi était annoncé dans le communiqué de presse de l'an dernier, il ne l'est pas dans le communiqué de presse de cette année. Donc j'ai mené ma petite enquête, le taux moyen servi c'est 2,21 contre 2 l'an dernier. En pratique, on a, comme d'habitude au conservateur, une grille qui est dépendante du taux d'unité de compte. Franchement, je trouve que le principe, je suis pas fan. Quand je regarde quand ça se passe à la Banque Postale, je suis très choqué parce que ça me paraît pas très citoyen de moduler le taux d'unité de compte selon la tête du client. Aux conservateurs, ils vont quand même relativement fort puisque sur un contrat qui a plus de 150 000 euros, celui qui a pas d'unité de compte, il a 1,1 et celui qui a plus de 70% d'unité de compte, il a 3,2. Ça va quasiment du simple au triple. Je trouve que c'est beau tout.
Voilà donc pour ce petit journal du fonds euro. Il vous reste, j'ai envie de dire, 40 secondes, donc je crois qu'on va en rester là aimablement, Jean-François, et puis on se consacrera plus longuement aux questions des auditeurs au cours des semaines qui viennent, quand on aura moins de fonds en euros à se mettre sous la dent. Mais bon, c'est vrai que vous êtes nombreuses et nombreux à nous interroger sur ces fonds euros et sur le rendement qui vous est consenti. Jean-François Filiat, donc, est marché gagnant pour cet exercice particulier de la panorama des fonds euros. Merci beaucoup Jean-François, et pour les questions, donc rendez-vous la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas l'adresse qui vous permet de nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans une poignée de secondes, c'est au tour de 90 minutes business, et on retrouve donc avec tout autant de plaisir chaque jour Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Bonjour Sandra.
On va parler évidemment de la mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Ampleur de la mobilisation, inquiétude des patrons. On va voir aussi, on va prendre le pouls dans le plus important centre d'affaires d'Europe, à la Défense, avec Raphaël Couder. Bref, on va voir un petit peu comment cette journée se passe à mi-parcours. C'est la bonne occasion aussi pour parler de mobilité. Grégory Coyot, le patron de Volt, sera notre invité. Et puis, on reviendra aussi sur le groupe Gosport, placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble. Ce sera dans notre focus avec Hélène Cornet.
C'est à suivre dans un instant. 90 minutes business avec Sandra Gandoin. Le marché parisien, lui, a accéléré un petit peu son repli. On perd maintenant 1,35%, 6 987 points. Ça veut dire qu'on est de retour sous les 7 000. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.